Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous parler de Johnny Hallyday. Ouais, vous allez me dire, ouais, Johnny Hallyday, on en parle de partout, etc. Alors autant vous dire, je ne suis pas fan de Johnny. J'ai même, me suis plongé dans, dans Spotify le jour dans l'album pour réécouter certains titres. Et si je dois avouer qu'il y a des chansons, on a tous en tête une chanson de Johnny Hallyday. Quand on dit Johnny Hallyday, tout le monde a une chanson en tête qui lui vient. Moi personnellement, j'étais pas fan. Bon, ma maman est fan et elle m'avait amené voir un concert quand j'étais gamin. Mais en fait, bon, il y a d'abord un grand respect, hein, 110 millions de disques vendus, 68 millions en France, 1000 titres, 50 albums studio, 27 albums live, etc. Voilà, bon, des millions et des millions de fans. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le jour d'un hommage national qui va réunir des milliers de gens dans les rues. Mais en fait, il y a deux points qui m'interpellaient dans cette, non pas dans la mort de Johnny, un petit peu, mais en fait dans le personnage de Johnny. La partie Johnny, créateur de contenu, et la partie newsjacking, qui est ce qui s'est passé lors de sa mort, justement, et juste après sa mort. Alors, je vais commencer d'abord sur la partie du Johnny, créateur de contenu, avec un point d'interrogation, finalement. C'est, était-il un créateur de contenu? Oui, soyons clairs, un chanteur, un artiste, est finalement un créateur de contenu. Alors, bien sûr, on va dire, mais Johnny avait beaucoup de gens qui lui écrivaient ses textes et ses chansons, mais en fait, il y avait autre chose, c'est-à-dire que il y avait d'abord un persona Johnny, c'est-à-dire que, vous savez, le persona, on en parle beaucoup quand on parle de cible, en disant il faut que vous dessiniez le contour de votre cible, que vous fassiez son portrait de qui est-elle, etc. Mais en fait, vous pouvez aussi faire votre persona à vous de votre marque personnelle, c'est-à-dire que la personne que l'on montre sur les réseaux sociaux, sur son blog, dans sa marque personnelle, n'est pas totalement la personne véritable, hein, soyons honnêtes. Ce n'est pas mentir, mais c'est montrer une facette, c'est montrer une partie de vous, c'est dégager une impression de qui vous êtes, pour que les gens s'approprient cette partie-là. Mais vous pouvez un petit peu, alors des fois certains vont forcer le trait sur un aspect, ce qui là est très dangereux. On va toujours essayer de masquer la partie qui nous déplaît. Alors bien sûr, vous le savez, je dis, hein, c'est l'histoire de la tartine de merde. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui semble avoir une vie formidable en voyageant aux quatre coins du monde, en général, il vous dit pas que derrière, il y a une bonne tartine de merde, une bonne partie de l'iceberg qui est sous la flotte, qui est pas si agréable que ça. Et en fait, il faut s'y faire, mais c'est le syndrome des réseaux sociaux, c'est de nous montrer que la partie qui brille, la partie clinquante, et ne pas nous montrer la partie en arrière-plan, bien sûr. Bon, et après, on peut se dire qu'il y a aussi des personnages qui sont un petit peu forcés. Bon, Woody Allen, par exemple, vous voyez tous le personnage de Woody Allen, mais est-il le vrai Woody Allen, ou est-ce qu'il ne pousse pas un petit peu le côté hyperchondriaque? Notamment, vous voyez, quand ils sont sur la scène, quand ils sont dans des émissions, dans les films, etc., vous avez l'impression qu'ils sont eux, mais sont-ils vraiment eux tout à fait? Et on peut se dire que Johnny, voilà, c'était sa marque, mais c'était pas son vrai nom déjà, même si il a jamais caché les deux, il a jamais dit « je m'appelle Johnny Hallyday, c'est mon nom », etc. Il a toujours dit « voilà, Jean-Philippe Smet », il en a même fait une chanson, et disant « voilà, je suis né Jean-Philippe Smet », finalement, alors même ce qui n'était pas tout à fait son nom de naissance d'ailleurs, mais ça, parce qu'il était, il avait été abandonné par son père. Mais en fait, il a bâti un persona autour de ça, finalement, son personnage, qu'il est devenu totalement Johnny. C'était lui, c'est-à-dire que vous oubliez qu'il était né sous son autre prénom, son personnage de scène était devenu son personnage de vie publique. J'avais envie de dire, si vous aviez croisé Johnny dans la rue, vous voyez Johnny, vous attendez à voir Johnny, vous l'auriez appelé Johnny, et si vous l'appeliez Johnny qui ne se retournait pas, vous auriez été super déçu. Si vous lui avez parlé et qu'il ne ressemblait pas au Johnny que vous voyez à la télé ou quoi que ce soit, vous auriez été déçu. En fait, il était Johnny, même si forcément le Johnny qu'on avait à la télé n'était pas aussi à 100% le Johnny qu'on voyait réellement. Et c'est d'ailleurs tous les témoignages que l'on voit sur la télé, si vous avez écouté un peu la télé, la radio, etc., vous avez toujours des témoignages de gens qui disent « ah oui, alors le vrai Johnny était comme ça ». Oui, mais en fait, les gens qui connaissaient le vrai Johnny étaient très peu, parce que bien sûr, toutes ces stars-là, elles elles ont fermé beaucoup de portes pour éviter qu'elles ne soient envahies aussi. Il y a personne, pas vraiment grand monde à part sa famille, qui connaissait sa vie de famille, soyons clairs. Et en fait, il avait choisi, alors mis à part quand il en donnait des bribes à Paris Match et compagnie pour justement éviter d'être trop espionné, il en donnait des bribes de temps en temps, mais sa vie de famille restait sa vie de famille, sa vie perso restait sa vie perso. Et bien sûr, par moments, il choisissait d'en exposer certaines parties et puis masquer d'autres parties. Voilà, c'était un petit peu... C'est un petit peu la situation des stars, mais c'est un petit peu la situation de n'importe quelle personne qui veut s'exposer sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé d'exposer toute votre partie de votre vie. Si vous avez décidé de parler d'une passion, vous n'êtes pas obligé de parler de vos enfants ou de votre métier. Si vous parlez de votre métier, vous n'êtes pas obligé de parler forcément de vos enfants, mais des fois, vous pouvez avoir des liens qui se font, vous pouvez choisir d'avoir des petites excursions dans un monde ou dans l'autre. Et puis, à l'inverse, vous avez des gens qui, eux, décident d'en parler totalement, et je pense notamment à ceux qui font des vidéos, vous voyez les chaînes YouTube de parents ou les blogs, mais surtout les chaînes YouTube aux États-Unis où ils font des millions de dollars en montrant la vie de leurs enfants. Et là encore, en fait, ça devient de la télé-réalité, c'est-à-dire que c'est pas non plus la vraie vie de leur vraie vie. C'est-à-dire que on a tous en souvenir vous avez sûrement vu ça, des familles qui remplissent de ballons à balles de balles de plastoc le salon pour que leur gamin se jette dedans depuis la troisième ou quatrième marche de l'escalier, qu'ils sont livrés une pizza géante sur le toit d'une voiture. C'est pas leur vraie vie, c'est leur vraie vie quand ils sont devant la caméra. Alors forcément, au bout d'un moment, à force de vivre dans ce personnage-là devient un petit peu soi. C'est pour ça que je dis que franchement, après une si longue carrière, mais même dès le départ, Johnny est rapidement devenu Johnny, mais ce qui devait aussi lui imposer, j'imagine, une contrainte incroyable, c'est-à-dire que d'être jamais vraiment tranquille et de toujours avoir cet aspect-là qui sont les problématiques des stars, et c'est pour ça aussi qu'elles sont épiées, mais aussi que temps dérape, c'est quelque part... dès qu'elles ne sont plus celles qu'on attend qu'elles soient, il y a un décalage important qui se fait, et là, c'est là où ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que tout d'un coup, et j'ai toujours en tête les images de Britney Spears, vous vous rappelez la chute de Britney Spears, incroyable, on avait en tête une Britney Spears à l'époque, la petite Lolita, et puis quelques années plus tard, on a une Britney Spears qui change totalement, mais on pourrait parler de Miley Cyrus, qui sont qui a un peu le même parcours, même si elle s'est pas rasé la tête, enfin pas à ma connaissance. Mais qui vous avez une espèce de distorsion qui se fait comme ça. Et alors quand cette distorsion qui est de carrière, qui est le choix de faire sa carrière, c'est comme Miley Cyrus, c'est un choix qui est assumé. Mais quand c'est que tout d'un coup vous explosez dans votre vie perso, pour ces stars-là, ça les rattrape. Nous, on est beaucoup plus protégés dans ce cadre-là, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de tout montrer. Le grand tort, je trouve, des réseaux sociaux, c'est qu'on a envie de montrer tout, et puis il y a des choses qu'on n'a pas envie de montrer, qui n'ont aucun intérêt pour les gens, mais certains les montrent. Et je vous dis même, moi, dans la parentalité, par exemple, j'ai vu des... Il y a même eu un mouvement de contestation, par exemple, des mères de famille qui montraient le pot de leur gamin, disaient « Ah, chouette, mon gamin a fait caca dans le pot, on en a un peu rien à faire ». Voilà, mais ça fait partie un petit peu des travers aussi des réseaux sociaux. Ça fait un petit peu le travers de notre époque qui est comme ça. Bon, bien sûr, Johnny avait un persona qui a su évoluer, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans ce persona de parce qu'entre sa période jeune et sa période vieille, donc on n'a pas connu sa période jeune. Il faut se rappeler que à l'époque, c'était un jeune con contestataire qui déplaisait fortement en radio, qui a bousculé fortement la société. Et qui, d'ailleurs, a été censuré pour certaines de ses chansons, même pas que les chansons de sa jeunesse, à l'époque de la guerre du Golfe aussi, il a des chansons qui ont été censurées. Et il y a eu des périodes plus violentes, des périodes contestataires, sa voix a changé, il a changé tout en restant lui, voilà, c'est comme ça. Et c'est aussi une vraie leçon, c'est que si on construit sa marque personnelle, on doit aussi évoluer dans le temps. C'est-à-dire que ce que vous construisez maintenant, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, elle sera différente. Moi, autant vous dire, la marque personnelle, quand je l'envisage, sur du long terme. C'est pas je dis pas, il faut faire votre marque personnelle, dans trois mois, vous aurez le résultat. Je disais ça l'autre jour dans le calendrier de l'Avent du créateur de contenu. Soyons clairs, la marque personnelle, c'est une construction qui se fait sur du long terme, et donc vous devez faire évoluer. Pourquoi vous changez, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous lancez de tels projets, pourquoi vous changez de projet, etc. Il y a des gens qui savent très bien le faire. Par exemple, sur Internet, moi, je cite toujours Cyprien, qui vous voyez qui est entre sa période où il a commencé devant sa petite caméra en tant que lycéen à l'époque et maintenant le réalisateur de films où il fait ses BD ou enfin de films de court métrage, mais moi pour moi c'est quelqu'un qui finira forcément à faire un film au cinéma, a évolué avec des moyens, avec il est passé par plein d'étapes, etc. Des changements de support, mais des changements de moyens d'expression, des manières de faire différentes, des sujets aussi sur qu'il a fait évoluer, mais en fait il reste quand même Cyprien, quoi. Voilà. Il s'est, même si bien sûr il y a les travers de l'audience en disant bon bah je vais faire une chaîne Cyprien Gaming, etc. et qu'il a été critiqué pour ça, que moi personnellement les chaînes de gaming j'en ai rien à faire. Mais c'est ça, sincèrement rien à faire, mais s'il y a des gens qui ont apprécié ce qu'il faisait dans ce domaine-là, tant mieux pour lui, mais bien sûr certains ont critiqué en disant que c'était de la pure opportunité, qu'en fait c'était pas un joueur. Alors bien sûr ce changement de position, cette prise de position-là ne marche que si vous êtes vraiment la personne qui est capable de jouer. Enfin, vous pouvez pas vous prétendre être Squeezie si vous ne jouez pas aux jeux vidéo sur YouTube. Vous ne pouvez pas jouer ce rôle-là. Vous voyez, moi, je pourrais pas vous dire que je suis, dire que je suis fan de cuisine vraiment ou quoi que ce soit. Moi, mon truc, c'est cuisiner rapidement et sans surveiller. Vous voyez, je peux pas vous dire, voilà, demain, je vais faire une chaîne sur les gâteaux merveilleux, etc. Moi, non. Si je devais faire une chaîne sur les gâteaux, ce serait comment les manger. Vous voyez. Mais ça n'empêche pas que des fois je peux parler d'un peu de cuisine, mais j'en parlerai toujours avec mon prisme à moi qui était dans ce que j'ai développé autour de ma marque personnelle aussi, qui était du fait que je suis me sois remis au sport, je fasse du trail, etc., mais aussi que j'ai perdu 25 kilos, vous voyez. Dans cette optique-là, je peux en parler. Mais après, il y a plein de choses dont je ne vous parle jamais. Il y a plein de choses que je ne vous montre jamais. Il y a énormément de choses. Et dans l'avenir aussi, il y aura plein de choses que je ne vous montre jamais. Donc voilà. C'était le personnage Johnny, il avait créé une marque vraiment, et puis qui a évolué, qui a changé de logo, qui a changé de look, mais vous rendez compte par exemple que dans son look a beaucoup évolué, mais qu'il avait une marque de fabrique au final qui a fini par s'imposer. L'autre aspect Johnny créateur de contenu qui m'intéressait, c'est l'autre jour en fait ma réflexion était en fait ça quand j'ai mis Spotify. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que ces 1000 chansons, ces 50 albums, ne sont pas un peu le bloc de sa vie, vous voyez? C'était me dit, bon, il y en a certains qui parlent de leur vie par des films, certains parlent de leur vie par des livres, certains parlent de leur vie par du blog maintenant, par de la vidéo, et certains font du vlog sur leur vie, certains font du streetcast, où nous racontons aussi nos trouvailles, nos découvertes, nos pensées, etc. Et je me suis dit, est-ce que finalement Johnny, ses chansons n'étaient pas finalement un petit peu le bloc de sa vie? Alors bien sûr sous la forme de chansons, et la chanson s'apparente plutôt souvent à de la poésie, sous certains aspects, sous la construction, les rimes, etc. Bien sûr il y a la musique, mais en fait il suffit d'écouter ou même de regarder les titres de certaines chansons, Laura par exemple sur sa fille, ou alors Je suis né dans la rue, qui n'est pas totalement autobiographique mais inspiré de sa vie réelle, ou d'ailleurs il dit je suis né Jean-Philippe Smet en telle année, etc. Et voilà, si il raconte une partie de sa vie, fils de personne puisqu'il a été abandonné par son père, que restera-t-il, dédié à sa mère, vous voyez, des choses comme ça qui sont en fait des bribes de sa vie. Alors bien sûr on ne dévoile pas tout, toutes ses chansons ne parlent pas que de lui, mais en fait dedans il a mis beaucoup de choses. Par exemple on y trouve aussi ses questionnements, ses passions qui sont devenues une source de contenu. Bon, les États-Unis bien sûr, la musique, la moto, la boxe, la prison. Par exemple il a fait 4 chansons sur le thème de la prison qui était un sujet qui le marquait particulièrement. Quand je disais la boxe, il a fait des chansons sur la boxe, sur les boxeurs, etc. Et c'était quelque chose qui partageait, une passion qui était dans ses chansons, dans certaines de ses chansons, mais aussi dans ses actes, etc. Et puis, il a aussi fait, par exemple, il s'est aussi basé, par exemple, sur l'actualité pour réagir. Par exemple, De l'amour, qui était son 50e album, était sans aucun doute un bon exemple, parce que c'est un album assez engagé par rapport, vous voyez, on a une image aussi de quand on recherche un petit peu dans les biographies, bien sûr on retombe sur des trucs qui étaient très légers, mais on a des trucs très engagés aussi chez lui. Et par exemple dans cet album là il y a un titre qui s'appelle Dans la peau de Mike Brown, qui aborde l'affaire Michael Brown. Vous savez que c'est cet afro-américain qui a été abattu par un policier à Ferguson aux États-Unis. Valise ou cercueil, qui revient sur la guerre civile en Syrie et les drames des migrants. Voyageurs clandestins, toujours sur l'immigration clandestine. Un dimanche de janvier, qui avait été écrit après les attentats de janvier 2015 en France, où en fait il rendait hommage aux personnes, aux marches républicaines qui avaient suivi, ou alors avant de frapper, ou s'interroger en fait plutôt sur l'embrigadement des djihadistes, vous voyez, avant les attentats. Ça, c'est dans un même album, ça fait quand même un album qui était très engagé. Alors vous avez des albums qui étaient plus engagés à une époque, il faut se rappeler quand même qu'il a vécu mai 68 de l'intérieur, et donc il y avait des choses qui étaient engagées à cette époque-là, il y a des périodes qui étaient beaucoup plus légères, qui je pense aussi sont ben, quelque part l'image de ce qu'il vivait aussi, de ce qui le troublait et autres. Ce que je veux vous dire en fait, c'est que ces quelques exemples que je viens de vous donner, ça illustre quand même assez bien comment sa vie était devenue aussi le terreau de la création. Pourtant, ce que je vous disais tout à l'heure, il a eu beaucoup d'auteurs hein, qui ont pour la musique que pour les textes. Il y a, c'est, si vous regardez la plupart des albums, vous vous rendez compte qu'il y a, il y a eu Michel Berger, il y a eu Balavoine, il y a eu un nombre d'auteurs mais incroyables qui ont écrit pour lui. Et des auteurs plus ou moins connus, enfin du grand public, hein, je dis Berger et Balavoine parce que tout de suite ça vous titre, mais en fait il y a des gens qui étaient beaucoup moins connus du grand public, il y a eu des périodes différentes. Mais en fait, c'est pas non plus très surprenant. Bon, je voudrais pas dire que il y a des écrivains très connus qui n'écrivent pas leurs propres bouquins, hein, soyons clairs. Beaucoup d'hommes politiques qui n'écrivent pas leurs propres discours, beaucoup d'humoristes qui écrivent à plusieurs, hein, les sketchs d'humour sont souvent écrits par des petites bandes, des petits clubs d'écrivains, ou au moins, pourquoi les duos en humour marchent aussi bien, c'est parce que, en fait, ils ont besoin de se répondre l'un l'autre, et dans tous les cas, quand vous avez un humoriste sur scène, vous savez qu'il a aussi des gens qui l'aident, des auteurs, au moins pour écouter ce qu'il raconte, et puis pour donner une répartie, pour donner du retour. Mais c'est aussi le cas, par exemple, sur YouTube, où il y a beaucoup de vidéos qui sont faites à plusieurs personnes, c'est le cas dans le podcast, où les podcasts sont préparés à plusieurs. Alors, je vous dis pas que vous avez des podcasteurs qui n'écrivent pas leur contenu, mais qui ne font que les jouer. Quoique, on pourrait se poser la question on pourrait se poser la question dans certains cas. Et je pense notamment d'ailleurs à des gens comme... vous savez, une personne comme Gary Vaynerchuk, hein, je vois tout le contenu qu'il produit. Déjà, les vidéos, vous savez que c'est pas lui qui les produit, il y a quelqu'un qui le suit en permanence avec une caméra pour le filmer. Mais je me dis aussi que je pense qu'une grande partie de, vous voyez, des textes qui sont assez longs sont aussi rédigés par d'autres personnes d'après les idées que lui, il aimait, et par rapport à son style, etc. Vous voyez, mais ce qui n'empêche que... bien sûr, c'est 100% ce qu'il pense. J'avais en tête aussi, vous savez, comment il s'appelle, Michel-Édouard Leclerc sur son blog. Michel-Édouard Leclerc dicte ses textes, en fait, quelque part, et il y a toujours un bout de ressaisie, de retravail, probablement derrière, mais c'est valable aussi pour des journalistes, etc. Vous avez plein de gens, en fait, vous voyez pas trop tous les petits trucs comme ça qui peuvent se passer derrière. Mais en fait, vous en rendez pas compte parce que c'est la manière d'interpréter dans le cas de Johnny. C'est, vous n'avez pas l'impression qu'il interprète, vous avez l'impression qu'il vit la chanson. Et donc, quand vous avez l'impression qu'il vit la chanson, et bien, quelque part, quand vous l'écoutez, vous êtes en connexion avec lui, vous pensez qu'il a vécu qu'il porte vraiment le message qu'il chante, vous voyez, qu'il est vraiment dedans. C'est pas parce que c'est pas lui qui a écrit les paroles ou la musique que ce n'est pas ce qu'il pense. Ou en tout cas, il donnait à penser qu'il le pensait vraiment. Et c'était ça qui était super important. Et en fait, c'était super important parce que c'est dans son engagement avec son public. C'est-à-dire que s'il a tant de fans, c'est qu'il a créé une connexion incroyable avec ses fans, qui certains ont bien sûr tous ses albums, toutes ses photos dédicacées, tout ce qu'ils peuvent avoir trouvé sur lui. Je parle même pas des fan clubs. J'ai travaillé à une époque dans une entreprise avec un gars qui était, je peux pas vous dire, enfin, il serait manutentionnaire, vous voyez, un peu ça, qui roulait avec la Harley Davidson de Johnny Hallyday, une ancienne Harley Davidson de Johnny Hallyday. C'était une fierté immense pour lui, vous voyez. C'était un gars qui avait un look rocker, etc., qui roulait avec une Harley Davidson qui avait appartenu à Johnny Hallyday. Il allait à des rassemblements, il était fier de dire qu'il avait roulé en Harley avec Johnny Hallyday. Vous voyez, Johnny Hallyday, quand il, vous voyez l'image du gars qui roule en Harley, c'était pas que l'image du gars qui roule en Harley, je veux dire. Vous savez, c'est pas comme les hommes politiques qui vont poser en Camargue en disant j'ai fait du cheval et qui descendent du cheval sans avoir au bout de 5 minutes. Non, lui, quand il disait qu'il faisait de la Harley, il faisait de la Harley. Quand il disait qu'il adorait les voitures, il a fait des rallyes, il a fait le Paris-Dakar, il a fait le rallye de Tunisie, etc. avec des voitures de compétition, avec ses moyens, son budget. Bien sûr, il les a pas gagnés, il a fini dans les 40 ou 50 premiers. Mais quelque part, quand il vous disait « je suis fan de voiture », c'était vraiment sa vraie passion. Et ça, je pense en fait que le public le ressentait vraiment. Je pense que le public ressentait vraiment l'émotion qu'il mettait, l'énergie qu'il mettait sur scène. Pourtant, je peux vous garantir qu'à une époque, la grande spécialité de Johnny Hallyday, c'était d'arriver systématiquement en retard à ses concerts. Moi, je vous ai dit, j'ai vu un concert de Johnny Hallyday avec ma maman. J'étais pas très vieux, mais je crois qu'il avait 1h30 de retard ou 1h45, et c'était connu. Et en fait, il pouvait se le permettre parce que derrière, ensuite, il donnait tout. Il donnait tellement que derrière, il fallait des heures ensuite pour redescendre, pour faire baisser la pression, que des fois, même d'après les témoignages, il se rappelait même plus tout à fait dans où il était, parce qu'il était tellement absorbé par ce qu'il venait de faire. Il avait tellement donné directement à son public sur la scène que quelque part, il en oubliait presque où il était. On a une anecdote très marrante d'ailleurs à ce sujet à Clermont. C'est qu'un jour, il avait mélangé les villes. Il était parti faire un concert à Saint-Étienne et aux Zénith de Saint-Étienne. Et il avait commencé en disant bonjour Clermont, alors qu'il était à Saint-Étienne. Mais en fait, il était à Clermont la veille. Voilà. C'était un petit peu. Et en fait, je me suis rappelé de ça en me disant, mais si ça se trouve, effectivement, c'était pas. Certains se sont moqués de lui en fait en disant, bon, il est un petit peu. Il devenait un peu sénile, quoi. Mais non, je pense que c'était juste en fait sa manière d'être à fond dans ses trucs. Alors bien sûr, dans le cas de Johnny, et il l'a dit, sa manière d'être à fond aussi là-dedans, c'est qu'il carbure à des choses qui sont pas très légales. Et il l'a dit, hein, il a été très 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 honnête là-dessus. Il a dit, comment vous croyez qu'on est capable de produire autant de chansons, autant de choses, tenir ce rythme-là, etc. On a forcément des aides, et des aides qui sont pas forcément légales. Mais l'énergie qu'il a mise aussi, c'est que il était accusé par exemple d'avoir chanté un playback, d'avoir une doublure de voix qui chantait à sa place, enfin tout un tas de choses comme ça. Mais en fait, le public l'a toujours soutenu et a toujours été derrière lui parce que quelque part, le public était conquis par qui il était, sa sincérité qui transparaissait dans ce qu'il faisait probablement. Enfin, moi, je suis pas assez fan pour ça, mais c'est comme ça que je le ressens, vous voyez. Et puis le dernier point, bien sûr, c'est la constance. Bon, bien sûr, il y a une longue carrière, il y a des trous dans une carrière, il y a des moments où il s'est arrêté de chanter, il y a des moments où il a repris, il y a eu des moments où il n'était pas très apprécié, des moments où ses albums ont bien marché mais n'ont pas été bien apprécié du public, mais n'ont pas fait pour autant de ventes. Il y a des moments où c'était l'inverse. Il y a des passages, des chansons qui resteront plus dans l'histoire que dans d'autres, bien sûr. Mais en fait, c'est la constance. C'est-à-dire que il faisait sûrement partie de personnes qui devaient travailler en permanence dessus. Alors même si l'autre jour, j'ai vu un truc qui m'a fait rigoler. Vous savez, parce que c'est relié aussi à l'histoire de la motivation. Il disait, voilà, quand je prépare des concerts, des tournées, on pourrait se préparer, mes musiciens, on pourrait se préparer des semaines et des semaines à l'avance. Je pourrais faire en sorte qu'on soit prêt un an à l'avance pour la prochaine tournée ou quoi que ce soit. Mais il dit, mais moi, je suis pas capable de travailler comme ça. Et il disait, moi, il faut que j'arrive à travailler dans l'urgence. Il faut que quelques semaines avant le début, on s'y mette et qu'on se dise, on va jamais y arriver. C'est l'urgence du truc. Et ça m'a rappelé un petit peu, vous savez, certaines thématiques que j'avais abordées. Pour certaines personnes, la motivation pour se mettre au travail vient de l'urgence, il y a une forme de procrastination, alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faisait rien à côté, peut-être qu'il y a des moments, bien sûr, il ne faisait rien, mais en fait, quand il fallait y aller, franchement, et j'avais trouvé cette anecdote très marrante, parce que je me suis dit, mais ça peut rassurer certains, vous savez, si vous faites partie de ces gens qui font tout au dernier moment, et on a tous un boost d'énergie en disant, oh là là, il me reste plus que 2 heures pour faire un truc, faut que je me dépêche de le faire, ou alors je pense avoir une semaine pour le faire, et puis en fait, bah ça y est, c'est maintenant, et la semaine est déjà passée. Vous savez, ça nous donne toujours un boost d'énergie, ces choses-là. Si, bah nous, non, vous n'êtes pas seul, hein, on est tous un petit peu comme ça, y compris les grandes stars. L'autre, voilà, ça c'était la partie Johnny, créateur de contenu, comment il jouait ça, comment il était dans ce persona-là, qui n'était pas un personnage, mais qui était en fait la plus grande partie, sa facette de lui. Mais bien sûr, on le sait tous, hein, y a toujours des parties des gens qu'on ne voit pas, mais on s'accroche à la partie qu'on voit. Voilà. La deuxième partie, c'était la partie newsjacking. Alors newsjacking, c'est quoi ? C'est la capacité que l'on a, ou la volonté qu'on pourrait avoir, de se greffer sur des événements d'actualité pour essayer de se faire connaître un petit peu plus. On appelle ça du newsjacking. Alors la définition, vraiment, comme je viens de vous dire, c'est vous avez une actualité dont tout le monde va parler, et vous essayez de glisser vos contenus à l'intérieur. Dedans, alors soit sur la thématique, soit en profitant du hashtag. Alors bien sûr, si vous profitez du hashtag en parlant n'importe quoi, ça s'appelle plutôt du spamming. C'est ce qu'on trouve beaucoup sur Instagram d'ailleurs. Quand vous trouvez des photos de cul qui sont basées sur vous cherchez un truc, un hashtag de cuisine, et vous avez une plébette russe à poil, non, là c'est pas du comment ça s'appelle, du newsjacking. On est plutôt dans du spam dexing, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, enfin du spam quoi. Bref, non, le newsjacking, c'est de dire, bon, il y a une actu qui va faire beaucoup parler et ou qui fait beaucoup parler actuellement, et dessus je vais me greffer dessus pour essayer de mettre mes contenus, mes messages, et essayer d'avoir de capter des gens. Alors vous avez différents types d'événements, hein, qui peuvent avoir euh, qui peuvent correspondre à ça, et je vais les classer en trois grandes catégories, enfin même quatre grandes. Vous en avez une première, ce sont les événements prévisibles. Et les événements prévisibles, ce sont les grands événements qui structurent le monde, j'ai envie de dire, vous savez, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, le Festival de Cannes, Miss France, le Téléthon, enfin même si rebondir sur le Téléthon, soyons honnêtes, si c'est pour faire de la collecte d'argent, oui. Si c'est pour essayer de faire la pub de votre recette de tarte aux pommes, non. Star Wars, oui, Star Wars, la sortie du prochain Star Wars, comme la sortie de tous les Star Wars, de tout ce qui arrive autour de Star Wars, est un élément sur lequel beaucoup, beaucoup de marques ont préparé leur contenu pour être prêts ce jour-là. Vous avez d'autres types d'événements qui sont des événements prévisibles, mais sans date. La mort de Johnny était prévisible, mais on n'avait pas la date. Alors, les journaux, les médias ont tous des biographies prêtes à sortir, c'est ce qui explique, il y a un communiqué à 2h45 et à 3h et quelques, il y a déjà Emmanuel Macron, l'Élysée avait déjà bien sûr son contenu, puis il s'était un peu prévenu un poil à l'avance que ça allait être imminent. Mais en fait, vous en avez aussi d'autres preuves. C'est par exemple TF1 qui a diffusé l'émission de Nikos Eliagas, qui était préparée avant sa mort, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce qui a mis un petit peu en colère ses fans, comme l'a expliqué Quotidien. C'est ils avaient préparé les séquences avant, et vous avez un Nikos Eliagas finalement qui joue la personne attristée par la mort de Johnny, alors que Johnny n'est pas mort. Et là, c'est terrible cette histoire-là, parce que qu'est-ce qui est terrible, c'est que vous avez le même jour une image de Michel Drucker qui s'effondre en larmes à la fin de son émission, alors même si bien sûr la manière dont il s'effondre peut prêter à sourire ou à rire, parce que je sais pas combien d'heures d'émission il a fait, peut-être 2 heures où il a parlé de Johnny en essayant de retenir son émotion. Et il faut se rappeler que il fait partie justement des gens qui le connaissaient en dehors, qui étaient un ami, qui voyaient d'autres trucs à côté. J'ai même trouvé d'ailleurs une anecdote comme quoi ça serait Michel Drucker qui pilotait l'hélicoptère qui avait déposé Johnny Hallyday lors d'un de ses concerts au Stade de France, qu'il a déposé sur le toit du Stade de France ce jour-là. Vous voyez, donc là on est vraiment dans du c'est vraiment du grand pote, hein. Mais Michel Drucker qui s'effondre en larmes et tout à la fin de son émission sur France 2 en hommage, alors que Nikos Eliagas finalement il ne fait que jouer un petit peu un personnage, et là si ça fait pareil, les autres chaînes ont fait pareil, c'est à dire qu'en fait il savait qu'un jour ou l'autre ça arriverait, hein, 74 ans, malade du cancer, beaucoup d'articles disant qu'il était pas très loin malheureusement de la fin de sa vie. Et tout le monde avait préparé les nécrologies, les biographies, prêtes à bondir. Et donc, en quelques secondes, vous n'avez même pas besoin d'enregistrer le contenu, de le refaire ou quoi que ce soit. Il était prêt, donc ils n'avaient plus qu'à le diffuser. C'est ce qui fait qu'il y a eu autant de contenus qui ont été publiés. Et puis, vous avez des événements imprévisibles qui sont souvent malheureux. Alors, je parlais des attentats tout à l'heure, ça fait partie de ça. Les grandes catastrophes, les attentats, les accidents, les tueries... sont souvent de ces éléments-là de newsjacking sur lesquels, ben, en marketing, on ne peut pas rebondir, soyons honnêtes. Mais vous avez aussi des événements sur lesquels on peut rebondir, et je pense par exemple, rappelez-vous une année, l'extinction des lumières du stade du Super Bowl, en plein match, une demi-heure de coupure. Le Super Bowl est prévisible, et beaucoup de gens avaient prévu du contenu sur le Super Bowl, mais les extinctions de lumière pendant 35 minutes ne l'étaient pas, et c'est là qu'Oreo avait fait un coup de pub magistral en sortant une pub sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec une image en disant « Même dans le noir, vous pouvez tremper votre biscuit dans le lait. » Enfin oui, dans le lait. Hein. Ils n'avaient pas mis dans le lait, mais les Américains savent qu'ils trempent leur Oreo dans le lait. Donc ils avaient fait un petit truc en anglais, c'est « Même dans le noir, vous pouvez tremper votre biscuit. » Ce qui avait un double sens très marrant, mais surtout, ils avaient publié ça, en fait, 3 ou 4 minutes après la coupure électrique, alors que ça, c'était un événement qui n'était pas prévu. Et c'est un summum de ce qu'on appelle du newsjacking, c'est comment vous êtes capable de rebondir dessus. Et vous avez d'autres choses après, ce sont les événements de tous les jours, qui sont les émissions de télé, les matchs retransmis. Donc par exemple, vous pouvez rebondir sur The Voice, vous pouvez rebondir sur les matchs de foot qui sont retransmis, que ce soit l'équipe de France de rugby, de foot, la Coupe d'Europe ou quoi que ce soit. Ou des événements, je parlais des Jeux Olympiques tout à l'heure, vous avez tout un tas d'éléments comme ça. Alors des fois, ce sont des événements locaux. Par exemple, nous, à Clermont, on a la meilleure équipe de France de rugby, enfin l'an dernier, hein, qui est championne de France, l'ASM. Demain, c'est un match de Coupe d'Europe. Vous savez que si vous êtes à Clermont et que vous voulez vendre des pizzas, vous pouvez toujours essayer de dire aux supporters, si ce match vous a donné faim, on vous livre votre pizza à la fin du match. Vous voyez, ça s'appelle du newsjacking à des fins de vendre. Mais c'est aussi ce qu'on conseille à des clients, pour essayer de se faire connaître. Car le but du jeu, bien sûr, c'est d'essayer de profiter de la focalisation des gens sur la thématique, d'essayer de toucher de nouvelles personnes en disant il y a tellement de gens qui en parlent que notre message, on va essayer de gagner en audience, on va essayer de gagner en portée, parce que le hashtag va être propulsé dans les trending topics, donc dans les sujets les plus partagés, etc. Attention toujours, tout de même, c'est pas toujours si efficace que ça. D'ailleurs, l'exemple de Johnny a été particulièrement représentatif de ça, c'est que M6, et comme toutes les chaînes de télé, a cassé son antenne, comme on dit, hein, pour mettre plein de choses sur Johnny, et en fait, ils ont fait des bides. Retransmettre les concerts de Johnny à 20h45 le soir, chacun y allait de son concert, ils ont fait des bides. J'ai vu par exemple les stats de TF1, de France 2, etc. ne sont pas si exceptionnelles que ça. Et alors, M6 n'a fait que sa 11e audience mercredi soir avec cette retransmission avec ce concert de Johnny. Et ça pose question parce qu'ils se sont fait battre par Joséphine Ange Gardien et compagnie quand même, des d'autres trucs. C'est peut-être tout simplement qu'en fait, ça m'amène à dire que l'audience de M6, je dis pas qu'ils en avaient rien à faire de Johnny, mais c'était pas sur, d'une part, c'était peut-être pas la bonne génération, vous voyez, il faudrait voir quelle est la cible de génération d'M6. Autant je pense que France 3 pouvait très facilement mettre du contenu, beaucoup plus facilement, parce que par rapport à leur audience, et ça parlait à des gens qui ont vieilli avec Johnny, vous voyez. Nous, on a toujours l'impression que Johnny a toujours existé, mais on a des gens qui ont vu Johnny arriver et qui ont vieilli avec, qui sont devenus fans, etc. D'ailleurs, c'était très marrant dans les fans, l'autre jour, ils interviewaient beaucoup de gens qui avaient son âge, et voilà, qui pour qui il a toujours existé, mais existé comme quelqu'un de leur âge, dans lequel ils se sont dit, peut-être, vous voyez, c'est ce que je dis en fait, il y en a des jeunes maintenant qui regardent des youtubeurs qui ont à peu près leur âge, qui sont à peine plus vieux, et qui disent « Ouah, j'aimerais bien faire comme lui ». Et en fait, vous avez plein de gens qui ont vieilli en disant « Ouah, j'aurais Johnny qui le voyait sur scène et tout, j'aurais adoré être Johnny, j'aurais voulu faire comme lui, etc. » Mais c'est pareil avec le sport, etc. C'est là-dedans qu'on s'identifie aux gens. Et en fait, donc, je pense que sur le cas de la M6 et de Johnny, c'était tout simplement... pas la culture de leur audience, pas la bonne cible ou quoi que ce soit. Et c'est là où il y a un vrai risque, c'est que vous n'avez peut-être rien à dire sur une thématique. C'est pas parce qu'il y a le prochain Star Wars qui sort que vous êtes capable de sortir quelque chose sur Star Wars d'une manière intelligente et qui va intéresser les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vous êtes capable de faire un lien entre Star Wars et vos contenus sur le sport ou la cuisine, tant mieux pour vous. Je lisais l'autre jour un bouquin, puis j'en parlais hier à quelqu'un en running, on disait il y a un bouquin très intéressant sur la science expliquée, enfin comment expliquer la science avec Star Wars un petit peu. C'est-à-dire, est-ce que on pourrait faire le sabre laser? Quelle est la taille de l'étoile noire? Vous voyez, des choses comme ça, mais expliquées par la science, l'analyse scientifique, etc. Là, oui, là, vous pouvez parler de ça. Mais franchement, mis à part si vous êtes capable de refaire, et je dis pas que vous soyez pas capable de le faire, hein, parce que Disney nous a montré qu'ils étaient capables de le faire. Disney, une année, avait fait les petits robots, alors c'est pas le R2-D2, là, c'est le tout petit, là, rond, là, je sais même plus son nom. Pour Halloween, ils avaient fait un truc disant, voici comment le reproduire en citrouille pour Halloween. Voilà, ça, c'est une manière de se relier au contexte. Alors, bien sûr, pour Disney, c'est facile, c'est eux les propriétaires de Star Wars maintenant. Donc, c'est eux qui sont propriétaires des droits. Donc, eux, ils ont tout le temps pour préparer, et ils ont beaucoup d'avance. Mais il y a plein de gens qui peuvent préparer des choses. Je vous rappelle, par exemple, dans ces thématiques-là, parce que ça fait partie des événements préparés à l'avance. Rappelez-vous Retour vers le futur, par exemple. Quand on est arrivé l'an dernier à la date de Retour vers le futur, où vous savez, ils partaient dans le futur, et ben beaucoup on les commémorait en faisant des images, etc. Certains c'était ils avaient refait la voiture d'une nouvelle manière, certains avaient fait des images, tous en tête cette image de baraque à frites, là, etc. Qui avait été renommé, enfin vous voyez, tout un tas d'images qui sont passées, mais finalement très très peu dedans sont sorties, car en fait c'est un vrai risque, c'est qu'en fait c'est des moments de très très forte concurrence. C'est-à-dire que le newsjacking, le vrai problème, c'est que quand c'est des événements prévus à l'avance, tout le monde attend de se préparer et tout le monde essaye de refaire ce qui va se passer dedans, et donc vous avez une telle concurrence que d'essayer d'apparaître là-dedans, c'est pratiquement impossible. Vous avez des millions de messages, comment voulez-vous émerger là-dedans? Alors c'est le petit jeu des community managers qui essayent bien sûr de se glisser dedans, mais autant vous dire que c'est juste le bordel. Et puis soyons honnêtes, il y a un truc qui est vraiment problématique, c'est que vous risquez de passer pour un charognard. Oui, comme on dirait dans un western, vous dansez sur le corps de quelqu'un qui est encore chaud, qui vient de mourir. Mettre des messages dès le matin pour essayer de se faire sa pub sur la mort de Johnny Hallyday, c'était franchement dégueulasse. Ça, c'est un petit peu la réalité des choses. Et c'est aussi comme ça que beaucoup de gens le perçoivent sur des événements comme ça. Et c'est là le risque de newsjacking sur des événements qui ne sont pas positifs. Autant c'est amusant de faire du newsjacking sur, je sais pas, la prochaine Miss France qui dit une grosse saucisse à l'antenne, autant le newsjacking sur des événements malheureux, sur des morts, etc., c'est quelque chose qui est pitoyable et déplorable. Voilà, Sur ce, bah, vous connaissez maintenant mon sentiment à la fois sur Johnny Hallyday et sur le newsjacking. Donc je vous laisse pour cet épisode et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao et très belle journée à vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.